إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله تبارك وتعالى أسيتي سنوبل مساجي يونس ابن متى dans le noble Coran. Et ceci dans sept sourates différentes. Il est tantôt cité par son nom, et tantôt cité par ce qui le lie à cet énorme poisson comme Dhunnun ou bien Sahib al-Hut. Ceci est une preuve de sa position éminente auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme ceci est une preuve que son récit contient de nombreux enseignements à tirer. قال الله تبارك وتعالى وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Sourate 37 verset 139. Et certes, Younous fut du nombre des messagers. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les mérites de Younous à travers ses paroles. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3395. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Il n'appartient pas à un serviteur de dire que je suis meilleur que Younous ibn Matta. » Et Abdullah ibn Abbas de rajouter, « Et le prophète l'affilia à son père. » Comme pour nous dire que Matta est le nom de son père et non celui de sa mère, comme ceci est l'avis de certains compagnons. Dans une autre version authentique de ce hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui me préfère à Younous ibn Matta a certes menti. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, cite plusieurs versions de ce hadith, dont une rapportée par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui dit وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُس ابْنِ مَتَّى. Ici est rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3415. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, et je ne dis pas qu'une personne est meilleure que Younous ibn Matta. Cette version appuie un avis concernant le sens de ce hadith. Il ne convient à personne de se prétendre meilleur que Younous. Et selon notre avis, il ne convient à personne de me préférer à Younous ibn Matta. Comme rapporté dans certains hadiths, ne me préférez pas aux autres prophètes et à Younous ibn Matta. Cela est à comprendre dans le sens de la modestie et l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prit sur lui et le préserve, ainsi que l'ensemble des messagers. Fin de citation. On remarquera qu'à travers ces nombreuses versions, ces hadiths peuvent être compris de deux sens différents. L'un signifiant, il ne convient à personne de se prétendre meilleur que Younous. Au regard de l'erreur dans laquelle est tombé Younous alayhi wassalam, il pourrait y avoir certaines personnes qui, se sentant à l'abri de tomber dans ce genre d'erreur, pourraient se croire supérieures et meilleures que lui. L'autre sens du hadith, ne me préférez pas aux autres prophètes et ne me préférez pas à Younous ibn Matta, dans le sens où le prophète alayhi wassalam fait preuve de modestie et d'humilité. Je voudrais attirer votre attention sur une problématique liée à ce sujet. Nous lisons dans le Coran qu'Allah a favorisé et donné prééminence à certains prophètes par rapport à d'autres. Allah dit tabaraka wa ta'ala « Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat » Sourate 2 verset 253. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé et il en a élevé d'autres en degré. De même, Allah dit tabaraka wa ta'ala وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا Sourate 17, verset 55. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Et à Daoud, nous avons donné le Zabour. Comment alors concilier ces versets du Coran, où Allah tabaraka wa ta'ala stipule clairement que certains prophètes et messagers sont préférés à d'autres, et les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam qui interdisent de donner préférence à certains sur d'autres? La réponse à cela est sur plusieurs angles. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le préférer à d'autres prophètes par modestie. Deuxième angle de vue, l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rapporte au cas où il y aurait un conflit ou une dispute entre deux personnes sur ce sujet. Comme ceci est survenu à son époque, où un musulman et un juif s'échangèrent des insultes, jusqu'à ce que le juif dise en jurant par celui qui a choisi Moussa parmi le monde entier. Alors le musulman leva sa main et gifla le juif et lui dit « Ô crapule, même sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam ». Le juif est alors parti se plaindre auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ce musulman. Le prophète dit alors « Ne me préférez pas aux autres prophètes ». Troisième élément de réponse, le sens de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam « Ne me préférez pas » par un avis personnel ou bien « Ne me préférez pas aux autres prophètes » par un avis basé sur un sectarisme réprouvable, comme le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que les autres du fait qu'il est arabe. Ceci n'a aucun sens et ceci est strictement interdit. Quatrième élément de réponse, la différenciation entre eux n'est pas du ressort des êtres humains, mais elle revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Autrement dit, le musulman ne doit pas faire de préférence entre les prophètes, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est octroyé ce droit-là. L'homme n'a donc plus de choix que de se soumettre à cette sentence. Cinquième élément de réponse, l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de différencier les prophètes et messagers entre eux sur la base de leur message. Effectivement, il n'y a aucune différence entre les messagers et les prophètes sur la base du message ou sur leur qualité de prophète et de messager. Alors que le verset stipule qu'il y a de réelles différences entre eux sur leur qualité respective au-delà de ce socle commun. Parmi les mérites de ce messager, il y a ce qu'a rapporté l'imam Muslim, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, sous le numéro 166, d'après la version de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa dans la vallée de l'Azraq. Puis il dit, quelle est cette vallée? Ils dirent, c'est-à-dire les compagnons, la vallée de Azraq. Le messager de dire alors, c'est comme si je voyais Moussa, alayhi salam, descendant cette vallée, et prononçant à haute voix la talbiya, la baik Allahumma la baik, la baik ala sharik, la kala baik. Puis, il arriva dans la vallée de l'Harsha. Et le prophète demanda sallallahu alayhi wa sallam, quelle est cette vallée? Ils dirent, c'est la vallée de l'Harsha. Alors le prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si je voyais Yunus ibn Matta, alayhi salam, sur une chamelle rouge, robuste et bien en chair. Il portait un vêtement de laine. Et les brides de sa chamelle étaient faites de fibres de palmier. Il prononçait lui aussi la talbiya, c'est-à-dire qu'il se dirigeait vers la demeure sacrée pour l'accomplissement du pèlerinage. Parmi les mérites de ce messager est cette invocation qu'il nous laisse en héritage, cette invocation qu'il prononça alors qu'il était dans le ventre de ce poisson, seul dans l'obscurité. Nul ne pouvait entendre sa détresse dans cette situation sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Cette invocation par laquelle Allah l'a délivré et a dissipé son angoisse. Cette invocation est la suivante. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Nulle divinité méritant d'être adorée sauf toi. Gloire et pureté à toi. Je suis certes parmi les injustes. L'imam al-Hakim, rahimahullah tabarak wa ta'ala, rapporte d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, qui a dit, « Ala ukhbirukum bi shay'in idha nazala bi rajulin minkum karbun, aw bala'un min balaya dunya, da'a bihi yufagraju an, faqila lahu bala, faqal, du'a'u zinnun, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Sa'd ibn Abi Waqqas dit, nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous dit, ne vous informerai-je pas d'une parole qui, dès qu'une angoisse touche l'un d'entre vous, ou encore une épreuve parmi les épreuves de ce bas monde, et qu'il invoque Allah par celle-ci, c'est-à-dire par cette invocation, tous ses problèmes se dissipent. On lui retorqua, oui, bien sûr. Il dit, l'invocation de Zinnoun, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Ce hadith a été authentifié par Cheikhoun al-Albani dans As-Silsilati Sahiha sous le numéro 1744. De même, l'imam al-Tirmidhi rapporte dans son Sunan, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, da'watu dhinnun idh da'a wa huwa fi batni al-hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الإمام الترمذي rapporte au numéro 3505 d'après Sa'd ibn Abi Waqqas رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation de Dhinnun, c'est-à-dire Yunus alayhi salatu wa salam, lorsqu'il invoqua et qu'il était dans le ventre du poisson. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah par cette invocation pour une chose sans qu'Allah ne l'exauce et réponde à sa demande. Ce hadith est lui aussi authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dans Sahih al-Tirmidhi. Cette invocation comprend et renferme le tawhid dans l'adoration. La ilaha illa anta, qui renvoie à la pleine soumission et la révérence du serviteur envers son Seigneur. Puis, Subhanaka, il déclare ici, alayhi salatu wassalam, qu'Allah est exempt de tout défaut et toute imperfection. Et le fait de le citer ici est comme pour déclarer qu'Allah est exempt de toute injustice envers son serviteur. Et la situation dans laquelle se trouve Yunus, alayhi salatu wassalam, est due au fait de son erreur avant tout. Inni kuntu min al-zalimin. Je fais certes partie du nombre des injustes. Il reconnaît ici son erreur, qui est un prérequis pour qu'Allah lui pardonne ce péché. Comme Allah le dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate 28, le verset numéro 16, قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ. Dans la parole de Moussa alayhi salatu wa salam, il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi, et Allah lui pardonna. C'est-à-dire que Moussa a reconnu son erreur, puis par la suite, après cet aveu, il invoqua le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah lui pardonna. Il n'appartient à aucun serviteur de se dédouaner et de s'exonérer de cette réalité dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire la réalité du péché. Surtout lorsque ce serviteur s'adresse à son Seigneur. Il se doit de reconnaître son péché. Comme le prophète le dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette fameuse invocation, « Abu'u bi ni'matika ali wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. » Je reconnais tes bienfaits sur moi et je reconnais mes péchés, pardonne-moi. Et nul ne pardonne les péchés, sauf toi. Ainsi était ce grand messager, alayhi salatu wa sallam, qui malgré son erreur, s'est empressé vers son Seigneur par un repentir sincère et une pleine soumission. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.